Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Sociologue spécialiste des croyances collectives. Si je vous ai invité, c'est que je me demande s'il y a déjà eu autant de croyances exprimées dans le débat public sur des questions non religieuses. Je pense d'abord à ce professeur de médecine propulsé sur l'avant-scène médiatique qui affirme que le réchauffement climatique est devenu une religion à laquelle il ne croit pas parce qu'il ne voit pas de modification de la banquise depuis 30 ans sur les photos satellites. Un professeur qui oppose aux demandes d'études rigoureuses sur le traitement qu'il promeut des sondages d'opinion qui lui donnent du crédit et de l'adhésion. La science, Gérald Bronner, est-elle en train de devenir une opinion ?
Alors non, la science n'est pas une opinion, c'est en tout cas tout ce que tout scientifique qui se respecte devrait affirmer, rappeler sans cesse, et c'est pas parce qu'il y a quelques, je dirais, esprits égarés, momentanément égarés ou durablement égarés dans ce cas de figure, que l'on doit revenir sur ce principe fondamental. Non, la science ne se décrète pas à l'applaudimètre, elle est démocratique d'une certaine façon dans la mesure où tout le monde peut en faire, mais on n'en fait pas n'importe comment, mais elle n'est pas démocratique si on entend par là que c'est en votant, par exemple, qu'on donnerait raison à Galilée contre les autres. Si Galilée a eu raison, c'est parce que ce qu'il disait était vrai, n'est-ce pas ? Si Pasteur a eu raison contre Pouchet dans la controverse sur la génération spontanée, c'est parce que les arguments rationnels qu'il avançait étaient plus forts, plus durables, vérifiables, et que l'histoire lui a donné raison.
Oui, l'histoire. Pas forcément sur le moment.
Absolument.
Il y a eu des esprits indépendants, novateurs, iconoclastes, qui se sont dressés contre ce qu'on pourrait appeler le scientifique. Consensus scientifique de leur époque.
Oui, et parfois ils ont eu raison. On pense, par exemple, c'est l'exemple de Galilée, mais il ne faut jamais oublier que pour un Galilée, il y a des milliers et des milliers d'individus qui ont tort contre les autres, n'est-ce pas ? Le consensus scientifique, c'est simplement des modèles intellectuels qui ont été drastiquement sélectionnés, probablement par le marché des idées le plus drastiquement sélectionniste que l'on ait trouvé dans l'humanité. Ça ne veut pas dire que ce consensus aboutit toujours à la vérité ou à quelque chose qui s'en approche, mais à tout prendre, il vaut mieux faire confiance, n'est-ce pas, à la compétence pluridisciplinaire et souvent internationale qui aboutit avec des méthodes, encore une fois, très drastiques, à des descriptions du réel qui sont confirmées, qui sont prédictives, plutôt que l'avis d'un individu aussi brillant soit-il et qui est en colère contre sa corporation pour X raisons.
Il y a une idée aussi qui a été exprimée cette semaine par le professeur Didier Raoult, puisqu'il s'agit de lui, c'est que les données, les data, c'est pas de la science, qu'on peut pas faire de la médecine sans voir de malade.
Oui, alors on peut certainement pas faire de la médecine à proprement parler sans voir de malade, mais
ou de la recherche médicale.
Voilà, il faut pas confondre la recherche médicale et la pratique de la médecine. La recherche médicale se fait comme toute science sur le recrutement de données. Mais en sociologie, c'est pas différent. En physique, c'est pas différent. Dans toutes les sciences, on cherche d'abord à recruter des traces du réel qu'on va proposer d'interpréter par des modèles. Mais avant que ces modèles soient validés, il faut donc un travail entre pairs. On se juge entre nous. Il n'y a pas de hiérarchie dans la science. En science, un prix Nobel n'a pas a priori plus de valeur que n'importe quel autre chercheur ou n'importe quel individu qui met les méthodes. La science, c'est pas une essence, c'est pas une blouse blanche. On le voit d'ailleurs avec le dévoiement de certains prix Nobel, on appelle même ça la maladie des Nobel. Une fois qu'ils ont le Nobel, certains d'entre eux, heureusement ils sont rares, se mettent à raconter n'importe quoi.
Professeur Montagnier en l'occurrence.
Et bien d'autres dans l'histoire des Nobel. Je pense à un prix Nobel de médecine qui croyait au spiritisme par exemple, et qui était très actif dans les associations spirites internationales. On en trouve plein d'exemples, donc il faut se souvenir de cela. La science n'est pas une essence, c'est une méthode. Et c'est pour ça qu'elle est profondément démocratique. C'est parce que dans le fond, si on la pratique bien, tout le monde peut la pratiquer. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de science pour en faire. Seulement, évidemment, mieux vaut quand même avoir une formation sérieuse parce que les propositions de la science, elles sont souvent contre-intuitives. N'est-ce pas ? Quand je vous dis, par exemple, que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse, c'est contre-intuitif. Imaginez si on se mettait à faire voter les individus, nos concitoyens, même dans des démocraties, sur des vérités qui sont profondément contre-intuitives. Donc la science, elle est démocratique, mais elle n'est pas démocratique dans ce sens-là.
Et les data, c'est aussi ce qui fournit la base des sondages d'opinion que revendique Didier Raoult.
Oui, donc c'est évidemment un peu paradoxal.
Est-ce que c'est une crise de la science, de l'opinion, ou une crise de l'autorité ou d'un système, puisque les croyants en réalité ne s'accrochent pas à un traitement médical en particulier, mais à une une rhétorique anti-système et un ennemi à combattre, c'est-à-dire le pouvoir, les puissances d'argent, les laboratoires pharmaceutiques.
Oui, ben effectivement, on le voit bien, disons que la figure du professeur Raoult, qui est par ailleurs un authentique scientifique, hein, faut pas oublier qu'il a publié dans des grandes revues, etc. Faut et le rappeler toujours.
Il a découvert un certain nombre de microbactéries, de microbes.
Etc. Et donc, ça ne remet pas en question du tout son prestige passé. Mais justement, son prestige passé ne le protège pas du tout, parce qu'on est dans le monde de la science, de contestation présente. N'est-ce pas ? Voilà. Ça vous protège de rien d'avoir un glorieux passé. Et on voit bien que dans sa rhétorique, en effet, il surfe sur un dévoiement de l'autorité scientifique, hein, sur ce que certains ont appelé un populisme médical. Je l'appelle aussi une forme de démagogie cognitive en réalité. Et on le voit, le professeur, comme la molécule dont il était question, l'hydroxychloroquine, est devenue politisée. En fait, elle s'est totalement politisée. Elle permet, une sorte de catalyseur qui permet de retrouver finalement une cartographie politique qu'on retrouve crise après crise en France. Et il y a un certain nombre de données qui le montrent d'ailleurs. Il faut savoir que c'est quand même une affaire pour l'instant très française, même si Donald Trump et quelques autres sont venus au soutien de cette molécule. Il faut regarder les données comme on l'a fait avec deux collègues, Florian Capfiro et Laurent Cordonnier, grâce à une analyse qui s'appelle Graphica. Et on voit que l'hydroxychloroquine a intéressé 16 fois plus en France qu'aux États-Unis, qui est le deuxième pays qui s'y est intéressé. Mais là, c'est au mois de mars. On verra au mois d'avril ce qui se produit.
En regardant les réseaux sociaux.
En regardant les réseaux sociaux, hein, c'est sur Twitter. Et on regarde un peu qui parle de la chloroquine, qui s'intéresse à cela. Et on s'aperçoit que ce n'est pas neutre non plus politiquement, puisqu'on retrouve deux fois plus de sympathisants du Rassemblement National qui s'intéressent à cette molécule que, par exemple, les gens de La République En Marche, et cinq fois plus à la France Insoumise. Et c'est ce que vient de confirmer un récent sondage Harris, que vous avez peut-être vu, hein, qui montre que les Français, en moyenne, dans 45% des cas, ont une bonne opinion du professeur Raoult, mais ça monte jusqu'à 72% pour les sympathisants du Rassemblement National de la France Insoumise. Donc, vous voyez, c'est une figure qui s'est politisée, et je dirais pas malgré elle, j'aurais peut-être dit ça il y a quelques semaines, mais on voit que dans ses déclarations récentes, il savonne un peu la pente de cette interprétation.
Avec un discours qui colle à ces modèles politiques-là, c'est-à-dire contre l'intelligentsia, les élites déconnectées et privilégiées.
Paris contre Marseille, enfin Paris contre la province, grosso modo, et effectivement le bon sens. Ça, c'est très dangereux, c'est peut-être ça ce qui m'a le plus agacé dans ses déclarations, c'est l'appel au bon sens. Voilà, contre justement le caractère contre-intuitif de la science. Un vrai scientifique sait que parfois, en effet, certaines vérités scientifiques vont dans le sens de nos attentes, mais très très souvent, les vérités scientifiques contredisent nos attentes. Elles sont contre-intuitives, c'est pour ça qu'il faut mettre de la méthode et pas seulement se servir de son bon sens pour faire de la science.
Gérald Bronner, on poursuit cette discussion sur la vérité scientifique dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Et on continue de parler de la science et de la vérité scientifique avec notre invité, le sociologue Gérald Bronner. Comment en est-on arrivé à penser que la vérité scientifique peut émerger du discours politique, des pétitions ou des réseaux sociaux ? Est-ce qu'il y a un déficit d'éducation, de formation à la démarche scientifique, à la réalité de ce que c'est que la science, Gérald Bronner ?
Alors certainement, d'abord en effet il faudrait songer, que ça soit d'ailleurs pour les journalistes en général, pour nos concitoyens, pour les politiques aussi, qui sont souvent qui ont souvent une forme d'inculture scientifique, et pour nous tous en réalité, c'est pas tant la formation d'ailleurs scientifique encore une fois qu'à l'esprit de méthode. Comment on démontre quelque chose, comment on traite des données, comment éviter les pièges qui pèsent sur notre rationalité à tous, y compris moi qui vous parle encore une fois, sont des traits anthropologique, humain. Et la méthode, ben c'est ce long travail qui consiste à remonter la pente précisément de nos intuitions, n'est-ce pas ? Encore une fois, j'ai l'impression que le soleil tourne autour de la Terre, j'ai l'impression que la Terre est plate. Mais il a fallu des milliers d'années pour que l'humanité puisse s'émanciper de ses premières impressions. Donc oui, un peu de science pour tout le monde, ce serait très bon, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans des sociétés qui ont des niveaux d'éducation qui n'ont jamais été atteints. Donc l'éducation, malheureusement, sinon on aurait la solution, en tant que telle, ne suffit pas à réduire à rien l'empire des croyances. Et en particulier dans l'état actuel du marché de l'information. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a en fait une diffraction du sentiment de vérité. La plupart des gens qui défendent par exemple le professeur Raoult ou qui sont contre le professeur Raoult, moi je vous rappelle que dans le premier sondage qui a été fait sur l'efficacité de la molécule, il y avait quand même 59% des Français qui pensaient que c'était efficace, mais 20 autres % qui pensaient que c'était pas efficace. alors que personne ne pouvait le savoir.
Et 20% de sans opinion.
Voilà, moi je me serais plutôt rangé dans les sans opinion, oui, parce qu'on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. Et donc, en réalité, tous ces gens pensent être porteurs de la vérité. Simplement, ils vont alimenter leurs sentiments et leurs intuitions à des sources d'informations qui vont aller toujours dans le sens de leurs attentes. Et c'est ce que permet ce formidable marché de l'information auquel nous avons accès. Songez que dans les deux dernières années de notre vie, il s'est publié plus d'informations sur Terre, n'est-ce pas, que depuis, disons, la révolution du néolithique. Donc voilà, c'est donc proprement inimaginable la disponibilité de l'information qui a permis notamment Internet. Sauf que cette disponibilité, elle a des aspects tout à fait excellents, elle nous permet de nous informer, mais elle nous permet aussi de nous donner des informations à propos de n'importe quel sujet qui vont dans le sens de ce que nous avons envie de croire, et tout armé de ces morceaux d'informations, nous nous croyons compétents, nous ne le sommes pas assez pour voir l'étendue de notre incompétence. Et du coup, nous parlons beaucoup, nous devenons bruyants et le monde est devenu cacophonique.
Quand vous dites on n'a jamais autant diffusé d'informations, on peut le tourner autrement. On peut dire qu'on n'a jamais autant diffusé de mensonges et de falsifications aussi, oui, à travers aussi toute cette masse d'informations.
Alors, là, c'est une bonne question, parce que la question, c'est quelle est la proportion ? Parce qu'évidemment qu'on a diffusé beaucoup de bonnes informations et aussi beaucoup de fausses informations. Mais je vais vous dire, en fait, la proportion n'est même pas tellement importante. Parce qu'il pourrait y avoir 95% de vraies informations. Si tout le monde va voir les 5% qui ne sont pas bons, ça
donc c'est le récepteur qui est
important. Le récepteur, ses choix et la façon, et pas que, les algorithmes aussi qui orientent, qui éditorialisent cette information. Je veux dire, Google, Facebook, tous les grands opérateurs du net, contrairement à ce qu'ils disent, Mark Zuckerberg vient encore de déclarer récemment que Facebook n'est pas là pour administrer la vérité. Mais on comprend qu'ils disent ça, mais c'est faux. C'est faux car il leur donne un certain nombre d'informations, il classe ces informations, il y a une hiérarchie d'informations, et ça c'est déjà, vous le savez bien en tant que journaliste, une éditorialisation. Ça ne veut pas dire qu'on ment, mais ça veut dire qu'on va insister plus sur tel point que sur tel autre. Donc ce n'est pas vrai de dire que le net est neutre, par exemple.
Mais Twitter, réseau social très populaire, un petit peu moins que Facebook, est entré en réaction et même en bataille contre Donald Trump, contre le président des États-Unis, en avertissant, en signalant plusieurs de ses tweets, ce qui met le président américain en fureur. C'est une évolution intéressante, Gérald Bronner ?
C'est une vraie évolution, surtout ça vient d'arriver, là, il y a quelques jours, surtout de la part de Twitter, en effet, parce que Twitter, c'est quand même peut-être un peu les égouts, si vous voulez, des réseaux sociaux. On a des données, d'ailleurs, un très bel article qui vient de paraître il y a deux jours dans la revue Nature, une revue très prestigieuse, et qui montre que pendant la pandémie, bien sûr, il y a des fausses informations. Tous les réseaux sociaux ont essayé de réagir, hein, il faut reconnaître. C'est pour ça que d'ailleurs, ce que Zuckerberg dit est faux, puisqu'ils essayent de modérer certaines informations, ils vous avertissent, il y a des bandeaux. Mais on retrouve quand même sur Twitter 59% d'informations qui étaient fausses sur le coronavirus, qui n'ont pas été modérées, alors qu'on n'en trouve que 25% fin mars sur Facebook. Donc vous voyez, une différence de modération. Et en effet, c'était quand même une très grande histoire d'amour entre Trump et Twitter. Je crois que c'est 80 millions de followers, c'est gigantesque. Et d'ailleurs, il s'est un peu radicalisé parce qu'il faisait 9 tweets par jour au début de son mandat, Trump. Il est passé à 29. Donc voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment la façon populiste de faire de la politique. C'est-à-dire qu'on essaye de pratiquer une forme de désintermédiation. C'est-à-dire qu'on va parler directement au peuple. Vous voyez, on retrouve un peu des accents raoultiens dans cette démarche. C'est-à-dire qu'on va mépriser les journalistes, pourquoi pas d'ailleurs la communauté scientifique. On parle directement par les réseaux sociaux. Sauf que jusque-là, en effet, les réseaux sociaux, pour ne pas avoir d'ennui, puis parce que c'est quand même des entreprises souvent de la côte ouest américaine, donc ils ont, une vraie valeur autour de la défense de la liberté d'expression, etc., qui est très forte dans ce pays. Mais malgré tout, ils ont vu leur image un peu écornée. Et surtout quand on est en situation de pandémie, on peut avoir une responsabilité quasiment d'ailleurs en termes de mort, n'est-ce pas, si on laisse répandre n'importe quelle information. Et pour la première fois, il l'avait fait avec Bolsonaro, ben en effet, ils n'ont pas en fait vraiment retiré les tweets de Trump, mais ils ont mis un bandeau pour les avertir. Alors Trump a tempêté et il a menacé d'interdire Twitter, même de ce qu'il ne peut pas faire en fait juridiquement. Puis surtout, c'est assez drôle parce qu'il a fait cette menace en écrivant ça sur Twitter.
Évidemment. Alors, je ne sais pas si on est entré en France dans le monde de la post-vérité, expression qu'on brandit déjà depuis plusieurs années, un monde où le mensonge, la falsification pourrait devenir la norme. Mais cette semaine restera en France celle où un humoriste tel que Bigard, Jean-Marie Bigard, a exprimé des velléités de candidature présidentielle, et ça a été jugé suffisamment sérieux pour que les médias s'en fassent l'écho. Est-ce que on est dans un monde où tout est possible maintenant, y compris une candidature Bigard, Gérald Bonner.
Alors évidemment, ça nous fait sourire parce que le personnage ne paraît pas vraiment légitime pour incarner l'autorité politique. Mais pourquoi pas ? Après tout, on voit d'autres pays où des comiques, je pense à Beppe Grillo en Italie, ont occupé une place centrale sans avoir de mandat à proprement parler. Ou dans d'autres pays où des comiques ont été élus. On se rappelle en France aussi la candidature de Coluche qui est maintenant auréolée. Et à juste titre de ce qu'il a fait, notamment les Restos du Cœur, mais dont le programme, si on le relit, était parfaitement populiste, je veux dire.
Et en Ukraine.
Et en Ukraine, je pense à l'Ukraine, en effet. Et donc, ce qui est, je ne crois pas tellement à l'hypothèse Bigard, mais rappelez-vous, on a parlé de Cyril Hanouna, etc. Ce que cela veut dire, en tout cas, c'est que pourrait surgir, très vite, en quelques semaines, en quelques mois, un personnage que peut-être même nous ne connaissons pas encore. C'est-à-dire qu'en effet, je dirais l'arborescence des possibles, compte tenu de la situation d'incertitude, de doute permanent, de colère même, qui saisit l'opinion publique, je crois que c'est un peu la boîte de Pandore et que de cette boîte pourrait sortir n'importe quelle personnalité. Mais ne me demandez pas qui, évidemment, je n'en ai aucune idée, pas plus que vous.
Merci beaucoup Gérald Bronner, auteur entre autres de La démocratie des crédules et de votre dernier livre, Déchéance de rationalité. Merci à vous.